7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de mode. Karl Lagerfeld est décédé la semaine dernière. Il a été comparé à un artiste, lui qui dessinait de simples vêtements, certes vendus à prix d'or depuis plusieurs décennies. Il tenait la fringue à distance de ses passions littéraires. Alors la mode est-elle légère, superficielle ou engagée et puissante? Faut-il imiter ou se distinguer des voisins? S'habiller pour soi ou pour les autres? On va en parler avec nos invités. Jennifer Thiot, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un petit livre lumineux pour les jeunes, tous pareils, mode et liberté chez Gallimard, dans une collection qui propose un regard philosophique et ultra accessible aussi sur les accessoires du corps, précisément, puisqu'on est né sans poils ni plumes, il faut bien nous vêtir. Et sinon, dans la vraie vie, vous travaillez à la présidence de la chaîne de télévision Arte. Sophie Kurdidjian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mode à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Alors, vous nous direz si on vit un moment inédit aujourd'hui avec cette arrivée de préoccupations de mode durable. On va en discuter avec Sakina Mpsa, si elle arrive bien. Elle a du retard avec les transports en commun. Elle est créatrice de mode française d'origine comorienne et ses vêtements qui portent son nom plaident pour une mode éco-responsable. Elle est aussi la première styliste à avoir organisé une Fashion Week en prison dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et chez vous les voisins, on dit quoi sur la mode, sur la création? Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Écoutez ce voisin congolais pour qui la mode est d'abord une prise de tête assumée. On l'écoute.
Salut les voisins, les voisines. Moi c'est Don Diesel du Congo Brazzaville. Ouais, la mode pour moi c'est la meilleure des choses qui soit. C'est grâce à nos vêtements qu'on détermine notre personnalité. Et me concernant le matin, c'est quasiment un grand travail à faire parce qu'il y en a tellement trop. Ça me prend la tête chaque matin pour choisir ce que je dois mettre, ce que je ne dois pas mettre. Et à tout moment, quand on est dans les supermarchés, on veut toujours avoir d'autres habits alors que je suis noir à la maison. On en a encore d'autres qu'on n'a jamais portés. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais on veut toujours être beau à tout moment. On veut toujours être propre, on veut toujours être élégant. Et on veut toujours être supérieur aux autres dans notre façon de s'habiller.
Facebook également avec des commentaires. Brahim, auditeur à Abéché au Tchad, il nous dit: pour moi se saper c'est un devoir que les jeunes doivent accomplir, mais dans mon pays, le Tchad, c'est difficile de se saper comme vous voulez car au nord les gens rejettent la civilisation occidentale. Pas d'accord du tout ce voisin sur WhatsApp.
Salut les voisins et les voisines, c'est Abdoulaye Oldou, votre voisin du Cameroun, plus précisément à Maroua. Aujourd'hui, ici chez nous en Afrique, les gens ont tendance à copier les autres. Donc, on a ces problèmes de snobisme. Moi, quand je vois aujourd'hui comment la jeunesse s'habille, ça me met dans un état, je ne sais pas comment expliquer. La mode fait partie de notre histoire. Il y a des modes, notre mode traditionnel qu'on peut valoriser. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, on laisse notre mode traditionnel et on embrasse d'autres mondes, dont on est au milieu. On n'est pas arrivé à copier les autres et on a laissé le nôtre, ce qui n'est pas bien.
À Kolda, en Haute-Casamance, au Sénégal, Landing, lui, nous écrit qu'il a un certain âge et il explique qu'il y a des vêtements qu'il s'interdit systématiquement. Parfois, quand je vois les jeunes, nous dit Landing, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je les vois porter des pantalons déchirés. Or, dans la tradition africaine, porter des haillons est un signe de folie. Voilà. Alors, on a eu beaucoup de messages de voisins et évidemment, assez étonnant, les voisines, on ne vous entend pas, alors que c'est quand même votre corps qui est au centre de toutes les attentions mondiales quand on parle de vêtements et de mode, non? Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Sophie Kurdidjian?
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à associer la mode aux femmes et à parler principalement de la mode féminine, mais je pense qu'il y a toute une histoire de la mode masculine qui est un peu plus discrète. Mais on a eu un grand livre à la fin des années 80 par Farid Chenoun, un historien qui a replacé la richesse de l'histoire de la mode masculine au centre de nos préoccupations scientifiques.
Jennifer Thiot, ça vous surprend ces témoignages qu'on vient d'entendre de voisins qui finalement nous disent « mais c'est un sujet sérieux ».
Mais non, pas tant que ça. Je pense qu'on dit souvent que la mode est superficielle, mais finalement, on peut traiter ce sujet avec beaucoup de gravité et beaucoup de sérieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans la mode. Il y a le rapport qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre estime de nous-mêmes. Il y a le rapport, bien sûr, qu'on a aux autres. Est-ce qu'on a envie de les imiter ou au contraire de se différencier ? La mode se replace aussi dans une histoire, comme le disait Sophie. Donc il y a beaucoup de façons finalement de l'aborder qui sont très intéressantes et très profondes.
En tout cas, vous nous appelez pour nous dire ce que vous inspire la mode légère ou plus profonde. 33 1 84 84 22 71 71. Pendant vos appels, on réécoute Karl Lagerfeld, directeur artistique de la maison Chanel. Et évidemment, 100% provoque.
J'aime ce côté propre et impeccable. Je déteste rien de plus au monde que les gens négligés. J'ai haï les laisser aller.
À quoi ressemble la tenue d'un dimanche glandouille, vision calage? Je suis comme Lady Gaga, la discipline 24 heures sur 24.
Non mais là, je ne la connais pas. Et je ne fais pas tellement les régionales, je fais plus l'international.
Il fait un peu pauvre chien de la fourrière qui voudrait se faire adopter, comme tous les gens myopes. Hein.
Les trous de la sécurité sociale, c'est quand même tous les maladies attrapées par les gens trop gros aussi. Hein.
Et mes cheveux ne sont pas d'une jolie couleur, ils sont grisouilles. Ça fait un peu queue de vache sale. Et j'adorais les chapeaux qui reviennent avec la plume ou les blaireaux. Et quand je voulais mettre à ma mère, n'aimais pas ça, t'as l'air d'une vieille lesbienne avec.
La fourrure, c'est quand même le vêtement le plus ancien de l'humanité. Avant de pouvoir tisser, on savait déjà chasser. La fausse fourrure, c'est bien gentil, mais c'est quand même pas la même chose. Et tant qu'on porte du cuir et on mange de la viande, c'est à peu près le même discours.
Oui, hein. Oui. J'aurais adoré jouer au piano. J'ai eu un an de leçon, ma mère m'a jeté le couvercle sur les doigts en disant t'as aucun talent, dessine, ça fait moins de bruit.
Aucune de mes affaires est à moi, parce que je veux être personne, je veux être irresponsable. Je suis comme les baisers d'oiseaux de passage, j'arrive, je pars et je repars. Je ne veux pas justement cette relation patron, je hais ça, rien que le mot.
Milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Karl Lagerfeld, décédé la semaine dernière, dans tout ce qu'on a dit sur lui, c'est vrai qu'on l'a comparé à un artiste. On a entendu Picasso. Est-ce que ça va pas un peu loin quand même, Jennifer Thio ?
Je pense que Karl a un côté très provocateur aussi, qu'il faut peut-être pas prendre à la lettre tout ce qu'il peut dire sur la mode.
Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas allés trop loin dans les commentaires en le comparant à un artiste ?
Ah, le créateur de mode se place toujours dans cette tension entre l'artiste et l'artisan. Et ça, c'est très intéressant. Bon, tous les créateurs n'ont pas le même avis là-dessus. Certains ont pu dire, voilà, faire de la mode, c'est faire de l'art comme un artisan. Il y a différentes façons de le voir, mais ce que je retiens dans ce qu'a dit Karl et qui est intéressant, c'est qu'en effet, la mode, c'est une certaine façon aussi de se placer dans le monde. Il y a fashion, le mot fashion vient de façon. C'est une façon d'être vis-à-vis des autres, une sorte de politesse. Politesse, ça vient de polito, qui veut dire lisse, poli ou propre. Donc, c'est certain, la façon dont on s'habille est aussi un langage, une façon de s'adresser aux autres. Et je comprends en cela ce qu'il a pu peut-être vouloir dire de façon très provocante, bien sûr.
Sophie Kurkdjian, vous iriez jusqu'à dire qu'un créateur de mode peut être comparé à un artiste ?
Alors c'est un débat, je pense que dans une perspective historique, c'est un débat qu'on retrouve très tôt, cette tension, comme disait Jennifer, et cette tension entre art et industrie. Est-ce qu'on est plus dans une démarche industrielle de production vestimentaire ou est-ce qu'on est un artiste ? Alors c'est un peu compliqué parce que replacer dans l'histoire de l'art, comparer Karl Lagerfeld à Picasso, moi je trouve que c'est, je ne sais pas si c'est très légitime. Je pense que c'était surtout un personnage, c'était aussi une construction sociale, c'était un visage et que La désignation d'artiste est un peu peut-être exagérée, peut-être un peu et peut-être comme vous disiez que les commentaires ont, enfin les médias surtout ont abondé dans cette image.
Parce que même dans les cours royales où les artistes certes étaient considérés comme des prestataires du roi, des fournisseurs du roi, mais néanmoins plus estimés qu'un vulgaire tailleur.
Oui, mais aussi c'est qu'avec la mode, on est quand même depuis les années 80 dans une surmédiatisation, dans les grands spectacles. Et c'est vrai que Karl Lagerfeld, c'est de la création, mais c'est aussi des spectacles au Grand Palais qui sont époustouflants, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une mise en scène, c'est une valorisation de la mode, des métiers de la mode, de toutes ces petites mains qui font des robes et qui passent des heures et des heures à créer ces robes qui sont présentées au grand public. Donc je pense qu'aussi c'est peut-être une notion d'art au sens de plus global. C'est une création vestimentaire, mais surtout une manière de présenter, de diffuser ce qu'il avait créé.
Et surtout une gigantesque machine à cash, quand même. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, on ne peut pas oublier ça. Quand on voit les chiffres, de toute façon, on sait que la mode, dès le début du XXe siècle, c'est la deuxième industrie exportatrice. C'est essentiel pour la France. C'est le cas en 1913, en 1920. Aujourd'hui encore, les chiffres le démontrent. C'est une industrie très puissante qui exporte, qui se repose essentiellement sur les accessoires, par exemple de Chanel, les lunettes, les parfums. Mais c'est en effet une immense machine. Afrique.
Engagé chez Chanel pour moderniser, pour réinventer la marque, il disait d'ailleurs « Mon boulot, c'est de donner un aspect nouveau à tout ça tous les 6 mois ». Alors, la mode, un éternel recommencement, ce qui voudrait dire que finalement, elle est quand même plus frivole qu'on ne veut bien le croire.
On est de toute façon dans une économie de marché qui fait que on doit, quand on est vendeur, pousser les clients à acheter et à acheter régulièrement. Ce qui entraîne évidemment cette impression qu'on n'a plus rien à se mettre, même quand notre armoire déborde de nouveaux vêtements. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire un procès à la mode en particulier. C'est toute notre économie qui est fondée là-dessus. Et il y a d'autres modèles qui existent aussi. Il y a des modèles beaucoup plus respectueux des gens qui font la mode, de la qualité des tissus, de l'image aussi qu'on peut renvoyer avec nos vêtements en utilisant des belles matières. Donc, je dirais qu'il y a comme en cuisine, il y a la gastronomie et le fast-food. En mode, il y a la fast fashion et puis de la couture.
Mais quand on dit qu'un créateur comme Karl Lagerfeld a apporté une incroyable liberté aux femmes, ça veut dire quoi concrètement, honnêtement? Qu'est-ce qui a changé dans la vie des femmes avec Karl Lagerfeld? Ou plutôt, précisément, qu'est-ce qui n'a pas changé?
Oui, c'est une question encore là, qui est une question présente avec à peu près tous les couturiers. Poiret a libéré les femmes en leur supprimant le corset. Chanel a libéré les femmes dans les années 20 avec des habits plus moderne et plus pratique, Yves Saint-Laurent à son tour, avec la saharienne notamment, et Karl Lagerfeld aurait libéré les femmes. Donc je pense que c'est aussi une question très compliquée, parce que on a tendance à voir dans la mode, soit c'est un nouvel esclavagisme, et ça oppresse les femmes dans des tenues très contraignantes, soit au contraire, ça les libère. Mais je pense que ça oublie toutes les autres questions de professionnalisation, de droit politique, de droit économique, d'égalité des salaires. Donc je pense que c'est un peu difficile de réduire le style Lagerfeld à une certaine libération. Je trouve que c'est difficile à juger comme ça.
Je me suis toujours demandé, pour moi, Karl Lagerfeld, c'est un peu comme une énigme, comment un surdoué, un intellectuel boulimique de littérature qui collectionne les livres, boulimique de philosophie, qui lisait énormément, comment il a pu passer plusieurs décennies dans un monde qui finalement se déchire pour un bouton?
Oh, certains se déchirent pour un bouton, mais d'autres sont passionnés et ont une vraie démarche de recherche, une vraie démarche artistique. Par exemple, aujourd'hui, je porte un haut de Stéphanie Couder. Stéphanie Couder, c'est une formidable couturière qui est dans le 20e arrondissement et qui a un amour de ce qu'elle fait, de ses tissus, des femmes aussi.
Oui, vu de loin, ça ressemble à un t-shirt noir hein, quand même.
Bien sûr, mais moi, je me sens très très bien dedans. Et ça, c'est important.
Oui, et dans la couture, c'est tous ces métiers, ces brodeuses, celles qui coupent, qui font de la couture au millimètre près, qui passent des centaines d'heures à faire une robe. Et ça, lorsqu'on se place du côté des métiers d'art, du savoir-faire qu'on transmet de génération en génération, on a une autre vision de la mode. C'est pas une question de bouton, c'est une question de
croire en l'intelligence de la main aussi.
Oui, et encore plus aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies. La main n'a jamais été autant prépondérante dans la création qu'aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies. Parce qu'on s'aperçoit que oui, l'impression 3D et toutes ces nouvelles technologies peuvent révolutionner la création, mais la main n'a jamais été autant puissante parce qu'il y a qu'elle qui garantit une certaine qualité.
Alors je reviens quand même à des citations de Karl Lagerfeld qui vont ponctuer toute cette émission parce que c'est vrai qu'elles nous ont marqué. La mode n'est ni morale ni amorale, elle sert à remonter le moral. C'est ça finalement Jennifer Thio, le petit haut noir dans lequel vous vous sentez si bien. C'est tout ce qu'on attend de lui, de ce petit haut noir.
Mais oui, je pense qu'en effet, on voit la mode comme un moyen de séduire les autres, c'est certain. Il y a cet aspect-là. Mais c'est aussi un moyen de se séduire soi-même, de prolonger un sentiment. Le matin, quand on s'habille, c'est presque un pacte qu'on passe avec soi-même. Par exemple, pour un entretien d'embauche, on va s'habiller avec un beau costume dans lequel on a l'impression d'être très fort, d'être capable de décrocher ce job. Et puis, il y a des applications parfois thérapeutiques à la mode. À la Maison de Solène, par exemple, il y a des ateliers pour les jeunes filles qui ont des problèmes d'anorexie.
Ouais, la Maison des Adolescents à l'hôpital Cochin.
Exactement, où Sakina, je pense, pourra nous parler des ateliers qu'elle a pu faire avec des prisonnières, des détenus.
Ouais, Sakina Mpsa qui vient de nous rejoindre.
Ouais,
bonjour
Sakina.
Ouais, bonjour Sakina. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Alors, je le disais, on va un peu ponctuer cette émission avec quelques petites phrases bien l'âme de rasoir hein, de Karl Lagerfeld qui nous a quittés la semaine dernière. Vous l'avez connu personnellement, vous l'avez croisé Karl Lagerfeld, Sakina Mpsa, en tant que créatrice de mode.
J'ai pas eu la chance de rencontrer cette icône, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on sait qui a vraiment beaucoup apporté. Hein. Je crois qu'on n'oubliera jamais assez qu'à la fin des années 70, la maison Chanel, c'était pas ce qu'elle était, même s'il y avait énormément de talent, énormément de travail qu'avait fait Mademoiselle Chanel. Mais que Karl a fait un travail extraordinaire, il a modernisé, il a permis à cette petite veste d'être portée par un jean. Elle est aussi sortie dans la rue, ce qui était aussi un désir profond.
C'est drôle, vous dites Chanel. Cette petite veste portée par un jean.
Portée sur un jean,
ouais,
pardon,
mais ça va bien aussi, portée par un jean, comme si le jean pouvait tenir tout seul. Parfois, le vêtement a plus de pouvoir que ceux qui le portent, non ? Alors, il disait, je n'ai rien à transmettre, je suis entièrement bidon.
Il est extraordinaire.
Ou encore, les meilleures idées me viennent en dormant, preuve que l'inconscient n'est pas si con.
Mais vous savez, cette question de la mode superficielle, c'est quand même un très vieux débat. Déjà, Platon disait que c'était peut-être une source de dépravation, un luxe qui était un vrai risque pour la paix sociale, alors que plus tard, Aristote a dit bah, finalement, c'est une pratique qui peut nous rendre heureux, c'est pas si mal, si c'est modéré, pourquoi pas, ça va favoriser l'économie.
Ouais, et le débat n'est pas prêt d'ailleurs de s'arrêter sur ces questions-là. Alors, imiter ou se distinguer, s'habiller pour soi ou pour les autres, on en discute avec vous, les voisins et les voisines. J'insiste aussi sur les voisines. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi un numéro de téléphone gratuit, le WhatsApp.
Sept milliards de voisins, c'est sur RFI.
7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Fashion, Lady Gaga. Lady Gaga, évidemment, une des icônes pour Karl Lagerfeld qui nous a quittés la semaine dernière. On parle de la mode, bien évidemment, on parle aussi de Karl Lagerfeld. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Alors, la mode fut-il profonde? On a envie d'avoir votre avis. Fodé nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Fodé.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Je m'appelle Fodé, je suis enseignant à Finem Business School, donc c'est une école de commerce basée à Dakar.
Oui.
Bon, personnellement, je mets le goût traditionnel le mercredi, le jeudi et le vendredi.
Oui, mercredi, donc, jeudi, vendredi. Alors vendredi, bon, je comprends, il y a la mosquée, c'est Friday Wear, mais pourquoi mercredi, jeudi?
Oui, en fait, le Google traditionnel me valorise beaucoup, vu mon âge, j'ai 36 ans.
Oui.
Donc, mes étudiants sont entre 20 et 25 ans, donc l'âge, l'écart d'âge n'est pas très important.
Oui.
Donc, le Google traditionnel, en fait, me valorise devant ses étudiants, dont l'écart d'âge n'est pas très important. Donc, quand je le mets, je me sens d'abord très bien, je me suis moi-même d'accord, d'abord. Et je me sens très bien avec le boubou traditionnel. Mais je mets le costume le lundi et le mardi.
C'est ça, d'accord.
Donc c'est mon choix, ouais.
C'est votre choix. Et c'est un vêtement qui s'utilise finalement pour asseoir votre autorité, Fodé. Est-ce que vous êtes le seul enseignant dans cette business school à Dakar à avoir un calendrier comme ça aussi précis des tenues?
Non, il y a d'autres enseignants qui font pareil, mais en général, le jeudi et le vendredi, surtout le vendredi, là, tout le monde pratiquement met le boubou traditionnel. Mais on a, j'ai constaté que aussi le jeudi, il y a beaucoup d'enseignants qui mettent le boubou traditionnel.
Et vous l'avez expliqué à vos étudiants, ils vous ont posé la question, que ce n'était pas lié à une pratique religieuse, mais à une stratégie d'autorité.
Ouais. Bon, les étudiants même, ils apprécient beaucoup. Ils apprécient. Ils viennent souvent me demander quel est ton couturier, qui t'a fait ça, c'est joli.
Oui.
Ça, donc, eux aussi, ils m'estiment beaucoup par rapport à ce corps vestimentaire. Ouais. Parce qu'au Sénégal, actuellement au Sénégal, je pense que cela ne pose pas de problème de porter un boubou traditionnel pour aller dans le milieu professionnel.
Non seulement ça ne pose pas de problème, mais il y a une idée derrière tout cela, hein, une valorisation aussi culturelle. Benjamine poste un message un peu similaire. Elle a 20 ans, elle est à Bafoussam au Cameroun. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Fodé. Elle dit « Je remarque que le pagne, qui semblait être réservé pour les cérémonies traditionnelles, devient de plus en plus à la mode parmi nous, les étudiants. Je découvre la valeur culturelle du pagne. On se sent plus africaniste. 50% de mes habits sont faits en pagne et c'est pareil chez les autres étudiants. » Alors, elle précise pas si c'est du pagne dessiné en Hollande, imprimé en Chine ou si c'est du pagne avec du coton local. Comment vous vous placez par rapport à ça, Fodé?
Bon, nous, en général, ici, la plupart des pagnes que nous utilisons, ce sont des pagnes tissées en Hollande. Et exactement, ce qu'elle vient de dire, c'est la vérité. Ici, pratiquement, c'est la tendance. Les gens tendent de plus en plus à porter le boubou traditionnel, dans n'importe quel événement. Donc, même les professionnels, les étudiants aussi commencent à s'habituer à avoir ce type d'habillement dans le milieu scolaire. Et même à l'université, on voit aussi des professeurs qui mettent les boubous traditionnels.
Merci Fodé de nous avoir appelé en direct de Dakar. Donc jeune étudiant, retourné à la tradition, peut-être réinterprété aussi différemment, Sakina Msa, qu'est-ce que vous en pensez en tant que créatrice d'origine comorienne?
Mais écoutez, moi je trouve ça déjà formidable parce que je trouve que le vêtement a vraiment un pouvoir qu'on n'imagine pas. N'oubliez pas qu'à une certaine période, quand les femmes portaient ces fameuses robes insupportables qui étaient les robes paniers, même l'architecture élargissait les portes pour que les femmes puissent juste passer avec ces grandes robes paniers. Et au niveau du design d'intérieur, les fauteuils étaient beaucoup plus profonds pour qu'on puisse mettre le panier derrière. Moi je suis très impressionnée par ce que dit Faudet, parce que cette notion de limite, et je suis à la fois très émue et touchée de voir au combien on a envie vraiment de revenir aux sources, de revenir à sa culture, et le vêtement a ça, un peu comme la cuisine par exemple, hein, quand, moi je sais qu'il y a des moments...
Ça ne veut pas dire qu'on est en panne d'inspiration ?
Non, moi je sais pas. Moi je dirais pas qu'il y a une panne d'inspiration. Je pense qu'il y a une espèce de rituel. Les rituels, c'est intéressant, ça peut être important et rassuré. Ça peut être rassurant, les rituels du vendredi, du jeudi, du mercredi. Et puis on se prend pas la tête, effectivement. Mais quelque part, il parle aussi de limites, de mettre une certaine distance, de mettre aussi des limites. C'est un vêtement aussi qui protège. Il y a une forme de protection, ouais, dans ce
corps. Et puis de changer de personnage. Et puis de costume, changer... cravate lundi, mardi, boubou, mercredi, jeudi, vendredi. On est deux personnes dans la même semaine.
Et de rendre hommage aussi à une culture, à une civilisation qui nous est commune. Les élèves sont hyper, enfin, ce qu'ils disaient, hein, c'est que... Et puis il est là pour enseigner aussi, peut-être qu'il parle un petit peu aussi de l'histoire de son pays. Enfin, je trouve ça formidable, le vêtement. C'est beaucoup plus profond qu'on l'imagine.
Et vous, Sakine Hamza, alors pourquoi avoir décidé de faire de la mode durable et engagée ?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement, non ? Vous ne pensez pas ? Comment est-ce qu'on peut accepter, quand on voit cette petite gamine de 16 ans suédoise qui dit bah, « Ok, c'est très gentil
Greta.
De m'enseigner... » Greta. Quand on voit Greta qui dit « Écoutez, c'est très gentil de m'enseigner tout ça, mais moi, je vais faire grève le vendredi, puisque c'est l'avenir, le futur, c'est moi. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions, ben, je vais faire grève. » Moi, je trouve ça très important.
Ouais, quel rapport entre le réchauffement climatique et le vêtement et le jean ?
Moi, je pense que... Alors, déjà, il faut savoir que l'industrie de l'habillement, c'est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole, c'est quand même énorme. Et que pour faire un jean, c'est incroyable le nombre de litres d'eau que l'on utilise.
Sans parler des teintures qui sont extrêmement toxiques pour les enfants qui les manipulent dans les pays pauvres, là où sont placées les usines.
Absolument toxique. Alors on parlera aussi du Rana Plaza, puisqu'on va en reparler là le 24 avril encore, pour se remémorer cette horreur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on parle de ces gamins qui travaillent là-bas, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème, il va y avoir un vrai problème sanitaire par rapport aux tissus que nous portons, aux vêtements que nous portons et aux teintures, aux textiles. Aujourd'hui, par exemple, les tampons, on a de plus en plus d'industriels qui font des protections hygiéniques, ils ont compris, hein, qu'il fallait faire autrement au niveau du pH. Mais vous allez voir qu'au niveau du textile, il va y avoir une vraie révolution.
Mais vous, ça veut dire quoi concrètement ?
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'habiller.
Quel type de vêtements qui viennent de chez vous ? Non, non, on est bien d'accord. D'ailleurs, vous êtes bienvenue habillée. Qu'est-ce que vous portez ?
Je suis toute nue.
Porter une robe nude, comme on dit aujourd'hui,
voilà,
c'est-à-dire
la
couleur de la peau.
C'était ma symbolique du jour. Hein, le premier vêtement, c'est le roi nu, c'est la peau. Mais voilà, pour moi, c'est un acte symbolique de venir aujourd'hui en nude. Je crois que... qu'est-ce qu'on peut porter aujourd'hui ?
Vous, qu'est-ce que vous fabriquez surtout ?
Alors moi, je fabrique des vêtements pour femmes, mais aussi pour du non-gender.
Et comment ils sont fabriqués ?
Alors, ils sont fabriqués à Paris, avec des tissus qui sont recyclés. J'ai une entreprise d'insertion par l'activité économique. Nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a vraiment une chaîne de valeur, une supply chain qui réfléchit de A à Z.
Alors, les matières déjà ?
Ben, les matières, c'est des tissus recyclés. Et donc c'est des tissus enfin moi en tous les cas, dans mon envie, c'était de dire je ne veux plus être dans une espèce de gaspillage, je vais prendre ce qui existe déjà.
Où est-ce que vous les trouvez ces tissus?
Alors dans les grandes, alors j'ai la chance d'avoir eu le prix de la fondation Kering et du coup d'avoir pu signer avec quelques maisons pour aller racheter les stocks, enfin je fais ça depuis 2010 dans le groupe Kering, et j'ai commencé bien avant, c'était depuis 2010 2007
vous
que la, je fais
vous,
ça.
Vous voulez assécher les marchés de la fripe, en Afrique?
Absolument pas, ça.
Parce que ces vêtements-là, c'est des vêtements qui partent, sinon...
Non, moi je parle de tissu, je ne parle pas de vêtements, je ne customise pas, j'achète des rouleaux de tissu.
Vous achetez des rouleaux de tissu, pas des vêtements sont déjà cousus que vous retransformez.
Absolument. Ah, en revanche, moi je soutiens énormément cette économie et cette industrie de la fripe et du vintage. Moi je pense que les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, penchez-vous vers le vintage, penchez-vous vers la fripe, c'est super, c'est hyper...
Sur le continent africain, il n'y a pas besoin d'expliquer comment ça marche, hein. Connaissent très bien.
Et ça, je l'ai découvert en allant là-bas il y a quelques années.
Il y a des marchés de fripes aussi?
Alors, il y en a, bien sûr. Il y en a et il y a beaucoup de tissus. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est de voir comment on peut faire en sorte que ces tissus africains, wax, etc., ne viennent pas que de Hollande, qu'à un moment donné, l'Afrique s'en empare réellement et qu'ils puissent...
Enfin, c'est surtout de Chine, à vrai dire, de toute façon.
Non, de plus en plus, d'ailleurs, de Chine, vous avez bien raison.
La mode et le développement durable, c'est quelque chose de tout à fait inédit aujourd'hui, cette prise de conscience dans l'histoire de la mode, Sophie Kurdjian?
Je pense qu'il y a eu, comme l'historien Manuel Charpie l'a démontré dans ses recherches, il y a toujours eu cette idée de recyclage, de fripe, de marché aux puces où les familles modestes vont acheter ce qui existe déjà pour se vêtir. Il y a aussi cette idée, grâce à la presse de mode, d'utiliser des patrons, de faire avec ce qu'on a, de moderniser.
Parce qu'on n'avait pas assez d'argent.
Voilà, je pense que tout ce qui est développement durable, je pense que le Rana Plaza, comme on vient de le mentionner,
cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh et qui a fait des dizaines de victimes.
Essentiel dans la prise de conscience. Alors ça n'a pas tout changé parce qu'on ne peut pas tout changer, mais je pense que le Rana Plaza a joué beaucoup. Tous les scandales de surplus de vêtements qui sont brûlés parce qu'on a trop de stock, on préfère les brûler plutôt que les redistribuer. Je pense que tout ça a fait que, parallèlement à cette crise climatique, dans la mode, on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et il y a aussi la place du public. Je pense qu'aussi en tant que client, la fast fashion, ça a du bon, mais c'est aussi beaucoup limite. C'est qu'acheter un t-shirt à 5 euros, je pense qu'en tant que client, on a compris que c'était pas faisable, on ne peut pas concevoir qui peut produire ça avec un salaire décent. Donc je pense qu'au niveau des clients aussi, il y a une prise de conscience qu'il vaut mieux acheter moins, mais de meilleure qualité. Et ça se voit dans les pratiques quand même. Ouais. Et le recours au recyclage, au vintage, alors ça se fait lentement. C'est aussi une éducation, je pense. C'est aussi une éducation des créateurs et du client.
Ça reste encore ultra, ultra minoritaire, Jennifer Thio. Je vous pose la question en plus parce que vous êtes diplômée d'HEC, mais certains disent que pour le moment, il n'y a aucun modèle économique viable dans cette démarche de prêt-à-porter durable, de création durable dans la mode.
C'est quand même en train de changer. Il y a des gens qui réussissent, je ne vais pas citer forcément des marques ici, mais il y a par exemple une marque de chaussures française, de baskets, qui parvient à faire des baskets de façon tout à fait durable et éthique.
Déjà, ils sont venus chez nous.
Ah d'accord.
Et effectivement, ils font fabriquer au Brésil dans des conditions...
Voilà, avec des caoutchoucs naturels. Ouais. Je pense que c'est possible.
Et avec des salaires décents pour ceux qui travaillent au Brésil.
Et comme le dit Sophie, c'est aussi aux consommateurs d'être prêt peut-être à investir un petit peu plus dans le vêtement en se disant qu'on va le garder plus longtemps et il va être de meilleure qualité.
Cette idée quand même d'une mode engagée, c'est-à-dire d'une mode un peu sérieuse, ça semble en même temps très paradoxal alors que justement la mode est là pour nous distraire de la noirceur du monde.
Oui, mais nous distraire et en même temps on ne peut pas porter quelque chose de fast fashion sans penser à l'humain, au facteur humain. Je pense que si, c'est une conscience, parce qu'on ne peut pas juste porter pour se faire plaisir. Il y a un moment, il y a une prise de conscience mais plus générale dans la société où on ne peut pas faire abstraction de la femme ou de l'enfant ou de l'homme qui a travaillé sans salaire. On ne peut pas ne pas penser à la pollution que ça génère. Je pense qu'il y a un moment, même si on a envie de se distraire, on est quand même informé sur les dégâts que ça occasionne humainement, socialement, culturellement.
Et ce sont surtout les jeunes qui sont très sensibles à cette mode durable, fin de la fourrure, notamment pour les véganes. Sakina Mpsa, pourquoi vous avez voulu introduire la mode derrière les barreaux? C'était quoi cette expérience en prison?
En fait, moi, ça faisait des années que j'avais décidé que je faisais un projet par an avec mes collections, mais un projet par an pour les autres à l'extérieur. Donc pendant des années, je suis partie au Brésil, dans les favelas, dans les townships à Jobourg par exemple, enfin bon, et dans les banlieues. Et en fait, à un moment donné, je ne pouvais plus partir parce que je me rendais compte qu'il fallait travailler autrement dans ma boîte. Et du coup, j'ai décidé de le faire en prison parce que ça me prend un RER et le temps d'arriver. Et ça me perd. Et donc, j'ai monté un projet de Fashion Week en prison parce que je pense que c'est important pour l'insertion de ces femmes parce qu'il faut y penser. Et je trouve que la mode, c'est un métier de désir. Hein. Vous parlez de distraction, mais c'est d'abord le désir. Quand on fait du durable, c'est le style d'abord. Enfin, en tous les cas, on est une génération qui réfléchit d'abord à faire un vêtement qui donne envie, un vêtement désirable, qui fait rêver. Et puis, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, il y a une durabilité derrière. Et quand je vais en prison, c'est de faire rêver avec ce désir-là, mais aussi de parler d'écologie, de parler aussi d'insertion, parce que la mode, il ne faut pas oublier, ça dépend bien sûr de la... on a deux ministères de tutelle, on a la culture et l'industrie, donc c'est une économie aussi. Mmh.
Et votre entreprise, d'ailleurs, a un statut d'entreprise d'insertion.
Hein, absolument.
Alors, tout de même, ce désir et en même temps cette attention aux autres, ça n'a pas toujours été le cas. Jennifer Thieu, vous écrivez beaucoup dans Tous pareil, Mode et Liberté, que c'est d'abord la séduction par le vêtement.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose à voir avec l'érotisme, avec l'art de l'attente, de la suggestion. Roland Barthes disait l'érotisme, c'est l'espoir de voir le sexe. Le vêtement, il est dans cette position ambiguë. C'est-à-dire qu'il peut séduire en dévoilant un décolleté, une cheville, mais aussi en masquant, en provoquant cette attente. Les accessoires aussi, on le sait, les chaussures peuvent avoir une valeur de séduction. Donc évidemment, le vêtement, dans notre rapport à l'autre, il a cette fonction de séduction. Et puis, comme on le disait au début de l'émission, il y a aussi la séduction de soi, l'estime de soi. Quand on se lève le matin, on a envie de se plaire à soi-même pour passer une bonne journée, je crois.
Allez, on repart au standard 33 1 84 22 71 71. On écoute un message posté sur WhatsApp par un voisin.
Bonjour tous les voisins. Moi, c'est Ousmane depuis Burkina. Oui, les vêtements sont ce qui définissent l'homme. Quand tu vois un homme, à travers sa façon de s'habiller, tu sais lui, si c'est un fonctionnaire, si c'est un mécanicien. Les vêtements définissent l'homme. Et moi, je m'habille toujours classe. Les gens ne savent pas ce que je fais dans la vie. Mais les gens savent en tout cas que lui-là, bon, il a du potentiel. Tu attires les gens vers toi. Quand tu pars dans un entretien, quand tu fais des affaires, quand tu es bien habillé, les gens te font plus confiance. Donc les vêtements pour moi, c'est plus que les diplômes, oui. Les vêtements pour moi, c'est plus que les connaissances. À travers les vêtements, l'intention, l'écoute des gens diffère. Donc, tu t'aspires à être un grand, tu t'habilles grand.
Voilà, l'habillement, le vêtement, c'est plus qu'un diplôme pour moi. Et puis il y a Célestin aussi qui poste ce message. Il est congolais à Cotonou, il est couturier. Il dit l'habillement, c'est pas pour moi-même, c'est pour faire plaisir aux autres. Et si je m'habille, je deviens un chef-d'œuvre. Waouh, ça va loin. Hein,
c'est merveilleux.
Oui, c'est vrai que le vêtement, c'est parfois une envie d'imiter les autres. Une envie de leur ressembler. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'émulation peut-être qui peut exister et par sympathie ou parfois par orgueil, on peut avoir envie d'être mieux habillé, mais en même temps de rester dans les codes de son groupe. Et puis, il y a parfois l'envie de se distinguer. Est-ce qu'on aime arriver dans une soirée habillé comme les autres? Pas forcément. C'est une façon d'affirmer sa personnalité.
Vous parliez de groupe, de classe sociale, hein, c'est de ça que nous parlait notre auditeur. Sophie Curdjian, à quel moment la mode finalement a complètement unifié les gens, où on n'a plus été capable de différencier un médecin d'un plombier en rien qu'à ses vêtements?
Oui,
aujourd'hui, on ne peut plus.
Oui, on ne peut plus. Oui, parce que pendant longtemps, il y a eu des codes et des... en fonction des classes sociales, des professions. Mais je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, on assiste déjà au développement et à l'essor du prêt-à-porter.
Mais le jean et le t-shirt.
Exactement. Et après les années 70-80, le jean et le t-shirt, ça uniformise, ça démocratise la mode.
Et maintenant les baskets.
Mais il y a quand même encore cette persistance, je pense que ça peut être culturel aussi, du du costume peut-être pour aller à un entretien d'embauche. Il y a toujours cette idée qu'on ne peut pas y aller n'importe comment. Il y a aussi le code du deuil, mais ça c'est un peu plus souple maintenant. Il y a le code de l'église ou du vêtement du dimanche. Tous ces codes se sont plus ou moins adaptés en fait à cette démocratisation de la mode. Mmh. Donc je pense qu'il y a cette dimension culturelle où on ne peut pas se rendre à tout type de rendez-vous habillé en jean, t-shirt, mais on a quand même un assouplissement des codes.
Karl Lagerfeld, encore lui, disait « Les pantalons de jogging, c'est un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. » Est-ce qu'il n'était pas déjà démodé, finalement, quand il disait ça ?
Non. Mais bon, moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Moi, j'ai une petite expérience en prison. D'ailleurs, vous le verrez, parce que donc, je fais un 52 minutes qui va sortir sur France 3 le 8 avril sur ce travail en prison. Et moi, il y a une chose qui m'a incroyablement touchée, c'était de voir au combien ces femmes, elles me parlaient d'uniformisation en prison et qu'elles se sentaient beaucoup plus protégées parce qu'elles n'avaient pas le poids sur. C'est-à-dire qu'une fois dehors, alors dehors c'est là quand on est libre, une fois dehors il fallait faire plus attention à comment on s'habille et donc c'était très compliqué, c'était très complexe le matin d'y réfléchir et que là-bas elles portaient le t-shirt.
Là-bas, c'est-à-dire derrière les barreaux.
Derrière les barreaux, le t-shirt, le legging, les baskets et que du coup il y avait une uniformité qui démocratisait quelque chose. Ça c'est une question à laquelle j'étais très surprise de la recevoir en pleine gueule à ce moment-là.
Ouais. On va parler des femmes et de la mode bien sûr. 33 1 84 22 71 71 dans quelques instants. Dans quelques secondes même, on va donner la parole à Éléonore qui nous appelle de Lomé au Togo.
You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real.
C'est Grégory Porter chez 7 milliards de voisins sur RFI, In Fashion, Sakine Hamza qui nous dit, qui murmure juste avec le mouvement des lèvres que c'est superbe. Ça vous plaît ?
Ah, c'est sublime.
On n'a pas encore vraiment complètement parlé des femmes et de la mode. Karl Lagerfeld disait à propos des mannequins dont il avait tant besoin, si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin. Rejoignez plutôt le couvent des Ursulines, il y aura toujours une place pour vous au couvent. MeToo n'était pas passé par son cerveau.
Bah, disons qu'il y en a beaucoup aussi qui faisaient autrement. Moi, je sais que en ce qui me concerne et en ce qui concerne aussi d'autres amis créateurs, ce qui nous intéressait, moi, je reviens du Brésil un jour, je me rends compte que je suis dans le 9-3 depuis des années et que j'adore ces formes, j'adore ces rondeurs, j'adore ces mamas avec leur plus de 45 ans, parce que pourquoi la beauté doit s'arrêter à un certain âge, pourquoi ce stéréotype du corps, et on a fait autrement, mais il y a pas que, il y a eu aussi Jean-Paul Gaultier, il y a aussi Martin Margiela qui ont vraiment beaucoup œuvré pour travailler autrement avec tout le monde finalement, parce que finalement le plus beau des podiums c'est la rue.
Oui, et la rue qui a inspiré tout le monde d'ailleurs, y compris le luxe, y compris Karl Lagerfeld qui parvenait à se réinventer lui-même en s'inspirant de la rue. Jevini Fertio, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les plus gros consommateurs de mode sont les filles. On peut être surpris parfois.
Oui, tout à fait. On dit souvent que la mode, c'est un truc de fille. Mais quand on regarde certaines études économiques, on se rend compte qu'entre 15 et 30 ans, c'est plutôt les garçons qui consomment. Alors, peut-être parce qu'ils aiment davantage les marques, qui coûtent un petit peu plus cher. Mais en tout cas, voilà, les filles ne sont pas toujours celles qui remplissent le plus leurs armoires.
C'est une tendance qui va être durable, à votre avis, Sophie Kurkdjian ?
Je pense qu'elle peut être durable parce que c'est aussi une question de médiatisation, des médias qui relaient une mode masculine, une attention portée à son apparence. Mais si encore on remonte un peu dans le temps, dès le début du XXe siècle, il y a des revues de mode spécialisées pour les hommes. Alors elles sont un petit peu moins importantes et moins visibles que la presse de mode féminine. Mais la mode masculine n'a jamais été absente. C'est juste que peut-être qu'on en parle un peu plus, qu'il y a des gens qui osent en parler un peu plus et après des marques qui vont se décliner spécifiquement pour les hommes. Et je pense que oui, on ne peut pas dire que c'est un phénomène essentiellement féminin aujourd'hui.
Mmh. Je pense qu'il faut aussi signaler qu'on a quand même une effervescence et un sérieux, une prise au sérieux de la Fashion Week homme qui s'est installée dans les défilés depuis quelques années. Avant, il y avait la Fashion Week femme, mais là, aujourd'hui, l'homme, d'abord au niveau des achats, au niveau de l'acte d'achat des acheteurs, est beaucoup plus puissante. Les salons sont de plus en plus intéressants. Il y a un propos au niveau des créateurs qui est de plus en plus désirable, qui est de plus en plus diversifié et qui est dans une interrogation très forte. Par exemple, Jacquemus, qui vient de sortir une collection homme, qui est vraiment, moi j'aime beaucoup cette dernière collection homme également. Je crois que c'est un vrai marché. Aujourd'hui, on parle du marché de l'homme.
Parce que plus de liberté aussi proposée aux hommes qui longtemps ont été beaucoup plus restreints dans la possibilité de la mode par rapport aux femmes.
Parce que comme vous disiez justement, les hommes achètent finalement, on les a achetés un peu, excusez-moi l'expression, je ne vais pas dire que l'homme est une belle endormie, mais on les avait un peu abandonnés. Et effectivement, je crois qu'ils attendaient que ça. Et ce que vous disiez comme chiffre, c'est assez parlant.
On accueille une auditrice avant de se quitter pour la fin de l'émission. Nafi nous appelle de Ouida au Bénin. Bonjour Nafi.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez travaillé dans la mode il y a plusieurs années.
Oui, enfin non, je travaille toujours dans la mode. Oui. J'ai commencé à travailler dans la mode il y a longtemps. J'ai 63 ans aujourd'hui.
Oui.
Donc j'ai fait l'école de stylisme et tout ça. Et puis j'ai commencé par chez Dior. Et puis après, je suis partie au Sénégal, monter mon petit atelier de couture.
Et aujourd'hui, quel est votre regard aujourd'hui avec le retour notamment des tissages du continent africain? Comment vous vous placez par rapport à ça?
Moi, ça fait très longtemps que je travaille la tioké et le tissage sénégalais. Mmh. J'étais au Sénégal. Et donc, j'ai fait faire un métier à tisser il y a très longtemps, un peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude, parce que je voulais faire des vêtements en pagne tissée. Mmh. Et donc, j'ai travaillé le pagne tissé pendant longtemps. Je trouve ça formidable, hein. Évidemment, il faut absolument qu'on arrive à travailler nos tissus. Et ici, au Bénin, je travaille la tioké. Je fais des manteaux en atioké et je continue avec ma fille à travailler. Et le problème maintenant, c'est le wax. Là, nous faisons beaucoup de wax. Et moi, je dis toujours qu'il faudrait absolument qu'on puisse faire les choses ici.
Ouais.
Mais c'est très compliqué, on n'y arrive pas.
Juste petite précision, quelques secondes. L'atioké, exactement, à quoi ça ressemble? Quel est le principe?
Alors, l'atioké, c'est la même chose. C'est du pain tissé, mais c'est le pain tissé qu'on fait plutôt ici au Nigeria.
C'est ça, sur des métiers assez étroits, hein.
Métier à tisser, oui. Alors les bandes justement sont très petites. Maintenant, ça s'élargit, mais les bandes sont petites. Alors c'est du pain tissé exactement comme au Sénégal.
Et c'est intéressant parce qu'on adapte les métiers à tisser aussi aux envies d'aujourd'hui et à notre époque. Merci de nous avoir appelé, Nafi. Tiens, je vais terminer avec encore une petite phrase de Karl Lagerfeld. Je ne résiste pas, c'était un bourreau de travail. Je regarde jamais l'heure, je ne suis pas payé à l'heure. Ou encore, d'où vient mon énergie? Point d'interrogation, quand on lui posait la question, il répondait tout simplement EDF, envie, désir et force. Voilà, ça c'est pour vous Sakine Hamza. Pour la suite et pour vos collections, Sakine Hamza, on vous retrouve à la télévision sur France 3, votre documentaire sur les femmes en prison et la mode sera diffusée le 8 avril. Jennifer Thiaux, vous publiez Tous pareil, mode et liberté aux éditions Gallimard. Et Sophie Curdjan, vous êtes historienne de la mode à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Demain, on se retrouve bien sûr, même heure, même endroit, chez 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Nicolas Benita. Demain, on s'intéressera aux femmes qui renaissent.